il est de retour après le succès de la semaine passée. Tu t'es beaucoup fait parler de ton Facebook Live, ça a l'air.
Quand même. On a peut-être créé un monstre, là. Ben, ma barbe. Alors, je me suis plus fait parler de ma barbe que de ma chronique. Fait que là, je me suis dit, je vais la remettre parce que là, je passe dans le beurre avec mon sujet.
Non, mais ça a poussé un peu, là.
Oh,
si je ne m'abuse.
Oui. Alors, cette semaine, je me disais, il y a deux choses qu'il faut que j'amène à ma chronique. Ma barbe et un tir-tic. J'ai oublié le tir-tic.
Non, ça aurait mal commencé.
Ouais, j'aurais aimé ça de l'amener.
Et cet homme est un professionnel, il a son masque, il a ses clés, il a ses affaires, il a tout caché ça, lui.
Oui, ben je veux pas que tu dises qu'il faut que tu me ramasses, justement, fait que je que je l'ai mis de côté.
Merci, c'est bien apprécié.
Oui.
David, on va parler de TDA et de TDAH parce qu'on sait déjà que c'est une condition particulière. Et là, dans le contexte de pandémie, avec des horaires un peu bousculés, l'école à distance, tout ça, c'est pas évident pour plusieurs.
Non, puis c'est souvent des gens, des patients, des enfants qui ont besoin de structure, qui ont besoin d'encadrement. Et j'imagine, on connaît tous quelqu'un, comme je disais tantôt, là, avant de rendre... Dans le préambule, qui quelqu'un autour de nous qui a ça, qui vit avec un TDAH ou des parents qui vivent avec un enfant qui l'ont. Et ce n'est pas de tout repos tout le temps, mais quand les enfants sont bien entourés, bien structurés, souvent ça va mieux. Et dans le temps de pandémie, ça va pas nécessairement mieux. J'avais quand même le goût qu'on en parle parce que il y a beaucoup de mythes autour de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Puis il faut savoir une chose, c'est que le TDA ou le TDAH, c'est un trouble neurologique. Donc, un peu comme la dépression, un peu comme l'anxiété. Donc, les parents qui ont un enfant, qui ont un TDAH, c'est pas parce que vous avez pas fait un bon travail. C'est pas parce que vous imposez du stress à votre enfant.
Ah ouais, il y a de la culpabilité un
Mais
peu
oui,
là-dedans.
Mais c'est pas un manque de volonté de l'enfant. C'est pas un manque de volonté du parent. C'est vraiment un trouble neurologique et je pense qu'il faut le retenir. C'est comme les gens qui ont une dépression. T'sais, quand on réussit à expliquer scientifiquement un mot, je pense que c'est plus facile à accepter et après à traiter. Quand on sait ce qu'on traite, là, souvent, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et justement, je trouve que le TDAH, plus récemment, on l'a mieux compris, on l'a mieux étudié et je pense qu'on le traite mieux et on le traite plus rapidement aussi.
Et il y a de nombreux porte-parole maintenant, des artistes qui sortent puis ça fait peut-être plus accepter facilement la condition.
Ça fait accepter exactement. Puis même quand on est dans le traitement, souvent, les parents sont réticents, ils se questionnent beaucoup puis avec raison. Puis tu sais, chez les enfants... On en voit plus qu'avant, premièrement. Chez les enfants, c'est 3 fois plus de garçons qui seraient diagnostiqués. Et imagine-toi donc qu'en vieillissant, on arrive à des taux qui sont semblables.
Ah, ouais.
Et voilà, oui, et j'ai trouvé ça. Et ça
les
nous...
madames, ils sont sur le tard?
Ben, sais-tu quoi? Je sais pas si les madames sont sur le tard. Mais sais-tu quel questionnement, moi, ça m'amène, c'est que peut-être aussi qu'on ne réussit pas à les diagnostiquer avant. Peut-être que les jeunes filles ont moins peut-être de troubles de comportement aussi que certains garçons. Peut-être que les signes et symptômes, peut-être que les manifestations sont moins visibles et ça fait en sorte qu'on les attrape pas assez rapidement. Et moi, je dis souvent, ces enfants-là, c'est drôle, moi, je trouve souvent, là, pour ceux qui m'entourent, que souvent, je trouve des enfants qui ont un je ne sais quoi, là, qui ont vraiment des caractéristiques qui ressortent, des belles caractéristiques. Et souvent, quand on les attrape, ça nous permet d'aller chercher leur plein potentiel si on les traite comme il faut, si on les traite rapidement. C'est un enfant sur 20, là, c'est 5 % des enfants qui vont être atteints.
C'est
à peu
beaucoup,
près,
là.
Oui, puis à peu près 4 % des adultes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les enfants atteints vont traîner ça au courant de leur vie. Donc, plus on va traiter de bonheur, plus on va être capable, justement, d'améliorer la qualité de vie. Faut pas se leurrer, là. Ça a un effet sur beaucoup de choses. Ça a un effet sur nos relations sociales, sur notre travail, sur les études, un effet sur le couple. Et les enfants qui sont pas traités, souvent, ils ont un rejet, ils ont une faible estime d'eux-mêmes. Ils vont finir par faire de l'anxiété. On sait qu'ils peuvent avoir même plus de dépression en vieillissant. Fait que c'est hyper important de les traiter, puis de les traiter comme il faut.
Parce qu'un sur 20, c'est un par classe, mettons, là,
ben,
à l'école.
Vu de même, t'as tout à fait raison.
Puis souvent, quand on a le diagnostic pour l'enfant, on remonte, puis on se rend compte qu'il y a un des deux parents qui...
Et voilà, 30 à 40 % Valérie. Hey. Ça vaut la peine de le dire. C'est que 30 à 40 % des enfants qui vont être atteints, on se rend compte que dans la même famille, il y a un parent qui l'a peut-être non diagnostiqué parce que ma génération, à moi, il y en a beaucoup qui n'étaient pas diagnostiqués, mais on peut dire, tu sais, c'est un chiffre qui frappe et que c'est un peu plate, sauf qu'en même temps, je me dis, un parent qui est atteint est peut-être mieux placé pour comprendre son enfant et pour l'aider, l'accompagner.
Mm-hmm.
Pour les gens qui nous écoutent, qui se demandent un peu, tu sais, TDA, TDAH, comment qu'on différencie le TDA qui est un trouble du déficit de l'attention. Donc, c'est vraiment des enfants qui ont un problème de concentration, un problème d'attention, ils vont être un peu désorganisés. Quand on rajoute l'hyperactivité, ben là, c'est vraiment des gens qui ont un besoin constant de parler, un besoin constant qui est de bouger, qui sont plus impatients, qui peuvent être plus irritables, des fois plus agressifs aussi. Donc, dans des familles, ça peut devenir plus compliqué. Fait qu'évidemment, moi, je pense encore là, c'est important d'agir rapidement quand on a ça. Quand on parle de médicaments, on a beaucoup de molécules maintenant qui peuvent nous aider.
Ça fait peur aussi, hein? Il y en a qui veulent pas que leur enfant touche à ça, là.
Oui, complètement. Il y a beaucoup d'inconnus, OK? Et il y a une chose que je tiens à dire, c'est que oui, il y a les médicaments. C'est sûr que moi, c'est ce que je connais le plus, sauf que les études ont prouvé que quand on réussit à combiner les médicaments avec, entre autres, de la psychothérapie, avec de l'ergothérapie, avec des orthopédagogues, de l'éducation spécialisée, et ces gens-là sont dans les écoles. Et c'est pour ça que je dis qu'en temps de pandémie, c'est encore plus difficile. Donc, l'enfant qu'on avait bien contrôlé avec les ressources à l'école et la médication, souvent juste la médication, fait en sorte qu'il y a une désorganisation naturelle qui va arriver. Dans les médicaments, les gens pensent souvent au Ritalin. Il faut comprendre que on a beaucoup de psychostimulants qu'on appelle. Quand je dis psychostimulants, c'est qu'on va stimuler le cerveau à se concentrer sur quelque chose. OK? Je prends toujours le même exemple, c'est que le contrôleur aérien dans un aéroport, il y a à peu près 20 avions qui arrivent en même temps.
Ouais.
Faut que soit capable d'en regarder une et de la faire atterrir au bon moment, au bon endroit. Le médicament, c'est ce qu'on fait. Donc, on a beaucoup de stimuli qui peuvent arriver. C'est de dire, ben, on va se concentrer sur une chose, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Dans les médicaments, là, tu sais, en passant, c'est le Concerta, le Bifantin, c'est du Ritalin. C'est juste que c'est des molécules qu'ils vont être à longue action. Donc, on va essayer de contrôler les symptômes sur une plus longue période. Des fois, on va arriver à éviter les effets secondaires. Comprenez une chose, c'est qu'il faut y aller doucement. C'est qu'il faut commencer doucement. Il faut augmenter les doses doucement. Et comme je dis souvent, ce n'est pas une fin en soi d'en prendre et ce n'est pas une fin en soi de les augmenter. Donc, on peut toujours reculer, on peut toujours recommencer. Et dites-vous une chose, c'est que si on a un bon diagnostic, on va avoir un bon médicament. Donc, quand vous venez à la pharmacie, que vous avez une prescription pour votre enfant et que vous êtes insécure par rapport à ça, si on a un bon diagnostic avec un médecin qui était vigilant sur ça, puis je pense que maintenant, ils ont les bons outils pour diagnostiquer, donc ça ne m'inquiète pas, bien, on l'essaye. Et si ça ne fonctionne pas, on recule et on recommence tout simplement.
Ça peut prendre un temps d'adaptation pour trouver vraiment la bonne dose aussi.
Bien, complètement. Puis on y va toujours doucement parce que on se cachera pas qu'il y a un profil d'effet secondaire potentiel. Ceux qu'on voit le plus souvent, c'est le manque de sommeil, c'est le manque d'appétit. Par contre, c'est transitoire et c'est dose dépendant. C'est-à-dire que quand on commence à dose faible, souvent, ça se peut. Pendant quelques jours, il y a un problème de sommeil, puis ça va s'estomper tranquillement. Ça va nous permettre d'augmenter la dose et de recommencer et de s'ajuster. C'est-à-dire que si on monte une dose et que l'effet secondaire ressort plus, on va diminuer. C'est toujours un équilibre entre l'effet qu'on va aller chercher puis l'effet secondaire qu'on va avoir. Et malheureusement, peu importe les médicaments qu'on donne, c'est souvent ça. C'est l'équilibre qu'on va aller chercher. Et je vous dirais, faites attention d'aller lire là-dessus. Faites attention d'aller lire les effets secondaires, la liste. Est longue de même. On nous voit. Elle est longue, la liste.
Oui, oui, oui. Mais n'importe quel médicament, ça fait peur quand on va lire tout. Hein.
Oui. Oui, il faut faire attention.
Je sais pas pourquoi je dis ça.
Tu sais que je te dis toujours que c'est un jeu de pourcentage et quand on a 5% des chances d'avoir quelque chose, on a 95% des chances de ne pas l'avoir. Mais retenez une chose, c'est qu'en donnant un médicament, je pense sincèrement qu'on peut aller chercher le plein potentiel. Et je pense qu'on avait déjà parlé ensemble il y a peut-être 2-3 ans, mais il y a des gens autour de moi qui ont mon âge et qui m'ont dit qu'ils ont commencé à être traités plus tardivement là, à l'âge adulte. Puis ils ont dit, écoute, avoir su... Des fois, il n'avait pas réussi à étudier dans ce qu'il voulait parce qu'il n'était pas capable d'étudier. Et une fois qu'ils ont pris le médicament, ils se rendent compte que, OK, attends une minute, là. Je suis capable de suivre, je suis capable d'étudier, je suis capable de faire ce que je suis posé faire. Donc, je pense que c'est un outil à donner à ces enfants-là. Je le répète, c'est le bon diagnostic qui peut nous guider. Puis quand c'est ça, let's go. On fonce, puis on le sait.
Là, tu as dit, là, c'est à titre informatif, tu as dit souvent le monde de mon âge, de ma génération. Là, tu as l'air du stagiaire encore, j'imagine, à la pharmacie. Tu as quel âge, David, pour que les gens soient fixés, là?
Ah oui, OK, j'ai 39 ans.
Ben oui, je sais. Ben,
40.
le 2 janvier, hein?
Oui,
ça,
tu m'en vas là.
Ça va venir vite.
Hey, ça va être un 40 ans plate, là.
Mais c'est parce que t'es. C'est parce que tes temps des fêtes sont pas super hein, depuis quelques années.
L'année passée, je m'en suis sauvé pas pire, mais oui, c'est vrai que souvent, on dirait qu'on tombe... Moi, je tombe malade dans le temps des fêtes. Là. Merci de me le rappeler. C'est vraiment le fun. Il fait beau dehors. Tout est beau.
Oh, mais, je suis solidaire.
Oui, mais tu sais, on n'a pas le droit de se rassembler.
Oui, parce c'est... que rendu là, je pense pas que ça va changer.
Ben non. Je pense que mon 41 va être mon nouveau 40. Tu sais que moi, j'ai pensé que ma blonde m'avait fait un surprise au courant de l'année.
Oh,
je t'en parlais une autre fois, mais je leur ai dit, rendu à la table, on était 6. Bon, mais moi, je pensais que c'était mon surprise.
Quelle déception!
Oui, c'est un message.
Ben oui.
Ah là là, non, ça. Non. Fait qu'on verra bien. Mais oui, je m'en vais sur le 4.
Bon. Bon, allez pas souhaiter tout de suite bonne fête à David chez Brunet. Gardez ça pour...
janvier,
mois de janvier.
Vu que je ne pourrais pas avoir de party au moins.
Au moins,
si
il y aura
si
ça.
Mes clients me le souhaitent.
Et vous pourrez réentendre la capsule au cjso.ca et sur notre page Facebook. Merci David Gauthier.
Merci à toi Valérie.
À la semaine prochaine.
Yes, bye bye.